Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Culture Monde, le magazine d'actualité internationale de France Culture, à retrouver du lundi au vendredi de 11h à midi. Une émission préparée avec Margot Le Ridon, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano, Bertille Bourdon et Nora Litoussi. À la réalisation, Vivian Le Cuivre et à la technique, ce matin, c'est Alexandre Dang. Pénurie de logements, habitats insalubres ou trop petits, des beaux quartiers aux bidonvilles. On s'intéresse cette semaine à la crise du logement. Après avoir parlé des modèles d'habitat alternatifs en Europe, où les grandes villes sont devenues inabordables, puis de la colère des petits propriétaires en Chine face à la crise de l'immobilier, enfin hier des difficultés de l'Afrique du Sud à sortir du modèle de ségrégation, direction ce matin l'Amérique latine, où certains pays investissent massivement dans le logement social, comme au Brésil.
Minha casa, minha vida é o mais importante programa do meu governo.
Le programme de logement Minha Casa, Minha Vida est la politique la plus importante menée par mon gouvernement. C'est la plus importante car elle va permettre de mener à bien le plus grand programme de logement populaire de l'histoire du Brésil.
La première chose que mon grand-père a faite lorsqu'il est entré dans cette nouvelle maison, c'est d'aller voir la salle de bain et surtout la baignoire. Comme il est très croyant, il s'est agenouillé pour remercier Dieu.
Je pensais qu'avec Minha Casa, Minha Vida, on en finirait avec le mal logement. Mais non, il s'avère qu'aujourd'hui, les besoins sont toujours immenses. Il est de notre devoir et de notre responsabilité d'augmenter notre capacité de construction de logements pour répondre aux besoins du peuple.
Ce sont des acronymes devenus des mots du langage courant. Si en France, nous avons les HLM, au Brésil, il y a MCMV pour Minha Casa, Minha Vida, du nom du grand programme de logement social lancé par l'État fédéral en 2009. Ma maison, ma vie, visait alors la construction de plusieurs millions d'habitations à destination des ménages de classe moyenne et populaire. Objectif, résoudre la pénurie de logements, mais aussi résorber les favelas et l'habitat informel aux abords des grandes villes. 15 ans plus tard, les maisons Minha Casa, Minha Vida sont une réalité, reconnaissables à leur petite taille, leur toit couleur ocre et leur concentration dans des sortes de lotissements situés en périphérie des villes. Si le logement social à la brésilienne a permis de sortir des millions de personnes de l'habitat précaire, le bilan reste contrasté, d'autant que le programme a subi un coup d'arrêt après l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro en 2019. Alors en quoi le programme Minha Casa, Minha Vida a-t-il été un tournant dans les politiques du logement au Brésil? Les objectifs ont-ils été atteints? Le logement et le logement social en particulier seront-ils à nouveau la priorité du président Lula de retour au pouvoir il y a un an? Eh bien on discute de toutes ces questions avec nos invités. Hervé Théry, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS CREDA, professeur à l'université également de Sao Paulo. Vous êtes l'auteur de notamment Le Brésil, pays émergé, plusieurs fois réédité chez Armand Collin. Et notre seconde invitée pour cette première partie, c'est Eloïsa Dias Gonçalves. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également, vous êtes avec nous en direct du Brésil à Recife. Vous êtes avocate et professeure de droit civil à la faculté d'Amas. Votre thèse, soutenue en 2020 à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, s'intitulait « La métropole, un nouveau territoire du droit au logement au Brésil ». Hervé Théry, est-ce qu'on pourrait commencer par rappeler et expliquer pourquoi, en 2009, il y a 15 ans, le gouvernement brésilien met sur pied ce programme de logement social dont on va ensuite expliquer comment il fonctionne, mais quelle est la situation à l'époque et quels sont les objectifs à ce moment-là?
C'est une énorme pénurie de logements pour les pauvres, puisque la pyramide des revenus au Brésil a une base très large, beaucoup, beaucoup de pauvres, et qui ne trouvaient pas facilement à se loger dans le logement social ou dans le logement tout court, et donc une énorme quantité de favelas et de lotissements autoconstruits, comme on dit, un peu de briques et de brocs. Donc il y avait une énorme demande à résoudre. Et donc ce programme a été lancé en 2009, poursuivi au cours de ses deux mandats, puis le mandat écourté de celle qui lui a succédé, dont on a entendu la voix tout à l'heure. Et ils ont quand même réussi à faire 6 millions de logements, ce qui n'est pas rien. J'ai regardé les chiffres. Le dernier que j'ai trouvé, c'était 2018. Il y avait 14,5 millions de Brésiliens, c'est-à-dire 7% de la population brésilienne, dans ces logements. Donc c'est des choses d'énormes, mais ça n'a pas suffi, il reste encore à faire.
pour continuer à poser le contexte brésilien, c'est un, vous disiez, un marché locatif difficilement abordable pour les classes populaires. Quelle est la part de l'accès à la, de propriétaires au Brésil? Est-ce que c'est, est-ce qu'il y a un fort taux de propriétaires comme dans d'autres pays du monde? Mmh. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est très restreint à une certaine partie de la population?
Non, c'est, quand les gens construisent eux-mêmes leur baraque, ils en sont propriétaires, bien que ce soit complètement...
Même s'ils n'ont pas de titre de propriété.
Ils n'ont pas de titre, c'est illégal, c'est informel. Mais une des particularités, je crois qu'il faut le dire tout de suite, c'est que le logement social brésilien n'est pas locatif. Contrairement aux HLM ou ailleurs, dans beaucoup de pays du monde, on considère que les gens pauvres n'ont pas les moyens d'acheter une maison, donc on leur loue. Tandis qu'au Brésil, pour des raisons que j'ai jamais tirées au clair depuis 1945, on considère que les pauvres risqueraient de ne pas payer leur loyer, donc on préfère leur faire acheter et payer des traites. Et donc, ben, effectivement, ça ralentit, puisqu'il faut quand même mettre beaucoup d'argent sur la table.
Eloisa Dias Gonçalves, Minha Casa, Minha Vida, ce n'est pas la première politique de logement qui est mise en place, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous dire en quoi ça va être un tournant, ne serait-ce qu'en termes quantitatifs?
Oui, en fait, je pense que la grande question, l'innovation de Minha Casa Minha Vida, c'est que il y a beaucoup d'investissements du gouvernement fédéral, mais vraiment, il y a un budget très grand qui est destiné à ces programmes, qui est lancé en 2019 comme une réponse à la crise économique mondiale déclenchée en 2018. Donc, en fait, les programmes, il y a évidemment cette ambition de résoudre le problème de logement, que c'est un problème très connu au Brésil, mais aussi il y a une question économique très forte qu'on voit dès qu'il est lancé, parce que dans les justifications, on dit que on veut faire une réponse à la crise et pour éviter que la crise économique atteigne le Brésil. Donc c'est un peu dans ce contexte-là qu'il est lancé, avec beaucoup d'investissements. Et le grand tournant, c'est qu'on sort d'un modèle où il y avait plus de contrôle public et on passe à un modèle centré sur le promoteur privé qui contrôle et qui propose les projets pour être financés par le gouvernement.
Alors concrètement, essayons de rentrer justement dans les détails de ce modèle. Vous le dites, un budget très conséquent qui est consacré à ces maisons, mais ce n'est pas l'État qui construit. Donc on s'en réfère au privé. Et vous dites, je crois que c'est vous, Elisa Dias Gonçalves, dans l'un de vos articles, que c'est le Chili qui va servir de modèle.
Oui, oui, tout à fait. En fait, ces modèles du Chili après les années 70, qu'il est un peu le ressort de la politique de libéralisation, il va être adopté au Brésil comme une réponse pour la crise. Et ces modèles, ce qu'il est différent du modèle qu'on venait de créer en 2005 pendant le gouvernement Lula. Donc la différence, c'est que dans le modèle de 2005, qui on essayait de mettre en cours et qui a été créé avec beaucoup de participation sociale, on faisait un bilan où on a besoin de logement, de quel type, on faisait un diagnostic, on planifiait tout ça avec la participation sociale. Et après, l'idée, c'est d'engager toute l'administration publique, soit les communes, soit l'État fédéré, soit l'Union, pour construire où on a besoin pour mieux atteindre la demande. Et ce qui change avec Minha Casa Minha Vida, c'est que le gouvernement, il dispose d'un budget. Et si vous êtes un promoteur privé, et vous devez aller à la caisse économique, c'est une banque publique qui va être responsable pour gérer les programmes. Vous déposez un projet en disant, bon, je veux construire 50 maisons dans tel terrain. Et la caisse, elle analyse la viabilité économique au nom du programme pour l'approuver. Donc, il y a plus cette planification en termes de demande, du rapport avec la demande, où est-ce qu'on a plus de besoins. Non, ça dépend d'où les promoteurs privés veulent construire. Et donc ça, je pense, c'est la grande différence du programme, mais aussi son principal défaut.
Hervé Théry, sur cette question du rôle du secteur privé dans ce grand programme de logements sociaux, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut que le privé puisse s'y retrouver aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse faire des bénéfices, c'est ça, sur ces logements sociaux.
Et on lui donne une somme globale en disant, il propose de faire tant de maisons, c'est plutôt 5000 que 50, hein, les paquets. Donc il leur faut des très grands terrains et essayer de rentabiliser, c'est normal pour une entreprise. Et donc on s'est largement en périphérie lointaine des villes, avec souvent des problèmes de transport, et très très tassés. Ce sont des petites maisons avec des terrains minuscules. La tradition précédente, du temps où c'était fait par le BNH, le Banque Nationale de l'Habitation, c'était de faire ce qu'on appelait des maisons embryons. C'est-à-dire qu'il y avait une salle de bain, une cuisine, une pièce, et que les gens pouvaient après assez largement étendre sur les côtés, au-dessus. Tandis que là, c'est tellement petit qu'on ne peut absolument pas augmenter. Donc, pour que ça tienne dans l'enveloppe qu'on leur a donnée, les entrepreneurs rognent un petit peu sur tout. Et ça fait donc ces alignements à perte de vue de maisons absolument identiques. C'est ce qui a attiré mon attention. Je savais que c'était en cours, mais en circulant à travers le Brésil, à peu près chaque fois qu'on approchait dans une ville, je regardais toujours par le hublot. Et quand je voyais assez loin un grand carré ou un grand rectangle de milliers de maisons, je dis bon, ça c'est Minha Casa, Minha Vida. J'en ai même fait un article dans mon blog là, sur les paysages. C'est des paysages absolument identiques de l'Amazonie au sud, du nord à... de l'est en ouest, on les reconnaît tout de suite. C'est vraiment, ça ressemble un peu à nos corons, si vous voulez, mais vraiment très très serré.
Les clés dont j'ai tant rêvé. Regardez ça, c'est ma maison. Ce sont mes clés. C'est tellement bien, tellement bien.
Avoir une maison, un toit sur nos têtes, c'est la certitude que lorsqu'il pleuvra, rien ne nous tombera dessus. Il n'y aura pas d'arbre qui tombera sur le toit, aucune bête n'entrera, pas de serpent, rien de tout ça. Parce que Dieu nous a donné, avec la préfecture, des habitations et c'est tellement gratifiant.
La joie d'une famille à Suzano, près de Sao Paulo, lors de son emménagement dans un appartement tout neuf. Pardon, Eloisa Diaz-Consalves, certaines familles doivent attendre plusieurs années avant d'avoir accès à ces logements parce que la demande est très forte. Sur quels critères les familles sont éligibles à cet habitat social ?
En fait, et ça c'est aussi une des critiques qu'on fait au programme, les principaux critères, c'est avoir de revenus compatibles avec le volet choisi. Parce que le programme, il est divisé en trois volets. Donc les premiers pour les classes plus populaires où se concentrent les déficits du logement. Donc à peu près un salaire minimum et demi. Et après, il y a le volet 2 et le volet 3. Et dans le volet 1, c'est où donc se concentre la demande, la différence du programme, c'est que les familles, elles contribuent très peu avec le paiement de la maison. C'est le gouvernement qui finance la plupart. Et donc ça, c'est la grande différence entre les volets.
Donc ça veut dire que pour une partie de la population, c'est un accès à la propriété qui se fait pratiquement gratuitement.
Oui, exactement. Comme Rêve parlait avant, au Brésil, on n'a jamais eu une grosse politique fondée sur les bails, enfin, sur la location. C'est surtout l'accès à la propriété. Il y a quelques spécialistes qui expliquent ça avec une idéologie qui a été créée pendant les années 40-50 de l'acquisition de la maison, un peu comme une question de statut social, mais aussi une façon de stabiliser les mouvements populaires, de freiner un peu les manifs et tout ça, comme rester un peu comme contrôler les gens. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, on a créé cette idée de qu'il faut avoir une maison, il faut faire une politique d'acquisition et les gens veulent avoir un papier. Et ça, donc, le Mia Casa Mia Vida, il reprend ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Brésil, évidemment, on a une demande énorme de logement, mais quand on dit une demande de logement, ça ne veut pas dire que les millions de personnes sont à la rue. Mais, pas, en général, et la plupart, c'est que les gens ont des conditions insalubres ou elles dépensent trop avec le loyer dans le marché privé. Et c'est pour ça qu'il y a une demande. Donc, les maisons, elles existent déjà. Mais les gens ont du mal à vivre pour faire accéder à cette maison. Et la critique qu'on fait au Minha Casa Minha Vida, c'est qu'on construit de nouveau encore plus de logements. Mais c'est pas forcément ça que les gens ont besoin. Donc, elles ont besoin, par exemple, de faire une régularisation foncière pour rester là où elles habitent déjà, ou elles ont besoin de avoir un crédit pour faire une petite rénovation dans sa maison, pour l'améliorer, pour construire une salle de bain ou quelque chose comme ça. Et ces types d'actions, c'est pas possible, ou c'était pas possible au moins, dans les premières versions du programme. Les programmes se concentraient justement sur la construction en donnant l'accès à la propriété. Et oui, oui, c'était un peu gratuit pour ceux qui étaient dans les volets 1, mais il fallait aussi suivre des listes, faire la demande, et il y a toute une procédure devant la caisse économique pour ça.
Alors, des logements gratuits, des logements pour la plupart plutôt modernes, standardisés, qui contrastaient fortement avec l'habitat précaire et insalubre des favelas. Et pourtant, comme vous commencez à le montrer, cela n'a pas forcément correspondu aux besoins des habitants, aux besoins des Brésiliens, Hervé Théry.
Oui, mais j'étais quand même touché par l'extrait que vous avez passé, la joie de cette famille qui a enfin sa maison, c'est-à-dire qu'elle donc, elle est sûre de ne pas être expulsée. Parce que c'était souvent sur des terrains illégaux, et qui sont tout contents parce qu'il ne va pas y avoir de serpents et de scolopendres et ni d'arbres qui leur tombent sur la tête. Ça me fait penser aux premiers occupants des HLM juste après la Seconde Guerre mondiale en France. C'est tellement mal vu aujourd'hui, mais les gens étaient ravis. Ils avaient de l'hygiène, une salle de bain, etc. Donc, on a raison de critiquer ce programme, mais quand même, il a fait accéder 6 millions de familles à des conditions propres, de propreté à tous les sens du terme. Donc, je crois qu'il faut le souligner. Mais c'est vrai que dans un certain nombre de cas où les terrains ont été légalisés, les maisons sont à peu près consolidées, là on pourrait effectivement améliorer sur place. Juste pour donner l'ordre de grandeur, il y a une partie de São Paulo qui s'appelle la zone Est. C'est 4,5 millions d'habitants, pratiquement tous en autoconstruction, donc construits à la va comme je te pousse, sur des terrains, presque pas de place, presque pas d'espace vert, très peu d'infrastructures. Ça, on peut espérer le restructurer un peu, mais quand c'est comme à Rio, 25% des gens qui sont dans des favelles, là, c'est inacceptable.
Et donc, comme on ne peut pas tout restructurer, il faut penser ailleurs. C'est ce qui a été fait avec ce programme. On entend bien les ambiguïtés, parce qu'à la fois, c'est source d'espoir et de joie. Et en même temps, 15 ans après, on voit qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. Rentrons un peu dans les détails. Le premier d'entre eux, qui est souvent le pointé très vite, c'est l'éloignement de ces maisons, des centres urbains et en fait des lieux d'activité économique. Pourquoi on en est arrivé là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à un raccordement, ne serait-ce que de transport public, pour ces nouveaux lieux d'habitation?
C'est un peu la conséquence du partenariat public-privé dont on parlait tout à l'heure. L'entreprise dit, bon, j'ai trouvé un terrain qui tient dans le budget, il est à 30 km du centre-ville, je construis là, et advienne que pourra. Et à ce moment-là, c'est des bus locaux qui y suivent plus ou moins, c'est pas les mêmes responsables, c'est la mairie qui se retrouve chargée après de mettre ça, ou des entreprises concessionnaires. Et c'est d'autant plus grave que ça n'est que du logement. C'est-à-dire qu'on tolère vaguement que des gens fassent des petits commerces dans leur garage, dans une partie de la maison. Donc non seulement ils sont loin de tout, mais ils n'ont aucun service sur place. Et donc ça fait vraiment des allers-retours, enfin ça crée des cités dortoirs au sens le plus strict du terme, avec des problèmes de transport, des problèmes d'insécurité. Donc je dis, il ne faut pas trop charger la barque, parce que quand même pour des gens c'est une sécurité, mais ils le payent cher.
Héloïsa Diaz-Gonçalves, sur la question des limites et des critiques qui ont commencé à être formulées contre ces maisons par les habitants eux-mêmes.
Oui, tout à fait. Et en fait, évidemment, après que les programmes aient été lancés et qu'on voyait un peu les conséquences de ces modèles et les critiques les critiques faites un peu, en partie, elles ont été absorbées. Donc, par exemple, dans la deuxième étape du programme, donc il a été relancé à partir de 2012. On commence à répondre à ces problèmes. On demande, par exemple, que les projets doivent être localisés dans une zone urbaine ou une zone d'expansion urbaine. On demande aussi une infrastructure basique, voie d'accès, éclairage public, égout sanitaire et tout ça. Ce qui avant, c'était pas le cas. Donc, pour voir comment, si les promoteurs privés voulaient, ils pouvaient faire n'importe quoi, enfin, construire beaucoup de maisons au milieu de rien, et c'était possible. Mais après, donc, on commence à régler plus ça pour éviter ces types de questions. Évidemment, ça n'a pas résolu tous les problèmes, mais ça a aidé que les lotissements créés après, ils commencent à être un peu mieux localisés. Par contre, le problème aussi, c'est que ça augmente les coûts et ça fait que c'est un peu moins intéressant du point de vue privé pour les entrepreneurs d'adhérer au programme.
Est-ce que ça veut dire que l'État va devoir rallonger la mise et mettre plus d'argent pour inciter les promoteurs à construire dans des endroits qui sont quand même viabilisés, un peu plus proches, un peu plus attractifs? Et si vous dites que c'est moins intéressant pour les promoteurs, est-ce que l'État compense?
Non, ce qui commence à ce qui se passe, c'est que les promoteurs, par exemple, ils laissent un peu de côté la construction de logements pour le volet 1. Ils commencent à investir plus dans les logements pour les volets 2 et 3.
Donc les ménages un peu plus aisés.
Oui, et ça veut dire qu'on destine la plupart des ressources publiques qui sont investies dans les programmes pour les familles qui ont besoin aussi, mais pas autant que les autres qui sont laissés un peu de côté parce qu'il n'y avait pas l'intérêt du secteur privé.
Alors justement, pour les ménages les plus modestes, il y a un autre effet pervers qui est apparu un peu plus tard, c'est que finalement, devenir propriétaire, même gratuitement, eh ben, ça a un coût, parce que quand on sort des favelas, il faut désormais payer les charges, l'eau, l'électricité, et que certains ménages se sont retrouvés en difficulté tout en appréciant leur logement. Est-ce que finalement, ce programme ne convenait pas aux plus modestes des plus modestes des Brésiliens, Hervé Théry?
Si, probablement. Plus pour fixer les idées, les limites des tranches, c'est à peu près 500 euros de revenus par mois pour la première tranche et 800 après. Donc c'est vraiment pour des gens très pauvres. Et le salaire minimum au Brésil, c'est-à-dire ce qui sert de référence, est autour de 200 euros. Donc les gens qui sont vraiment à la limite de la survie ont du mal à payer, d'autant qu'il faut rajouter des transports, comme on le disait tout à l'heure. Donc finalement, certains ont beaucoup de mal à se maintenir. En fait, il faut que pratiquement tout le monde dans la famille travaille. Enfin, cette acquisition, enfin ce système de les rentes propriétaires, bon, c'est une satisfaction, une tranquillité, mais en même temps, ça met la barre assez haut.
Et ce titre de propriété dont disposent ces familles, est-ce que ce bien vaut quelque chose sur le marché? Est-ce qu'elles ont la porte de sortie de pouvoir le vendre, ne serait-ce que le léguer à la génération future?
Alors, j'ai pas vu ça récemment, mais en fait, il y a un temps de carence. On peut pas du tout vendre ou même passer à quelqu'un d'autre. Pendant un certain temps, je pense que notre collègue de Recife nous dira ça. Ça se fait quand même, ça se fait avec ce qu'on appelle au Brésil des contrats de tiroir. C'est-à-dire qu'on fait un contrat entre soi, on le garde dans le tiroir, et le jour où c'est possible, on le met en place. Parce que les gens qui ont le couteau sous la gorge, ou ils abandonnent leur logement, ils s'en vont, ou ils essaient de passer à quelqu'un d'autre. Ça arrive aussi dans les lotissements ruraux, c'est la même chose. Donc en principe, oui, on pourrait le laisser à ses enfants, mais là, je crois que pas grand monde ne regarde aussi loin.
Eloisa Diaz-Gonçalves, est-ce qu'on observe des gens qui, après avoir emménagé dans les maisons Minha Casa, Minha Vida, finalement, au bout de quelques années, les quittent et retournent à l'habitat informel plus proche des grandes métropoles? Est-ce que c'est un phénomène qu'on observe?
Oui. Oui, tout à fait, malheureusement. Surtout pour les gens qui sont allés dans ces lotissements éloignés. Par exemple, elles passent trop de temps au transport où il n'y a pas d'école pour les enfants tout près. Et donc, après un moment donné, elles abandonnent ou essayent de vendre, de louer, même informellement, parce que ce n'est pas possible avant qu'il soit conclu toute la procédure, tout le financement. Mais oui, on voit, il y a quelques études qui montrent ça. Évidemment, ça dépend de c'est pas quelque chose de massif, mais c'est pas ignorable aussi. Donc, oui, c'est un problème. Surtout par les gens qui habitaient dans les zones, parce que quand on pense aux favelas, par exemple, on pense toujours dans les maisons un peu précaires au milieu de la ville. Et ça, en fait, ça, s'y paraît un peu bizarre, en même temps, c'est l'importance de la localisation. Parce que pour les gens qui habitent dans une favela, elles sont juste à côté d'où il y a plus d'emplois, d'études, de tous les équipements publics aussi. Et quand on éloigne ces personnes qui étaient habituées à accéder à tous ces réseaux, évidemment, on sent la différence de comment vivre. Et c'est pour ça, oui, qu'il y a des gens qui abandonnent.
Vous écoutez Culture Monde, nous sommes avec Hervé Théry et Eloïsa Diaz-Gonçalves pour parler des programmes de logements sociaux construits il y a 15 ans au Brésil dans le cadre de notre série sur les crises du logement dans le monde. Ce programme Minha Casa, Minha Vida a été lancé, on l'a dit, par la gauche lorsqu'elle était au pouvoir au début des années 2010. Mais tous les élus d'opposition n'y sont pas forcément opposés. Écoutez.
Nous plaçons la population, le peuple, les futurs résidents au-dessus de toute question politique. Quand j'investis dans des politiques publiques sociales, je veux diminuer le fossé qu'il y a entre les personnes en situation de vulnérabilité et les classes élevées. Lorsque je place une conduite d'égout, que l'on refait l'assainissement dans ce quartier, je pense qu'au-delà de contribuer à la santé, j'apporte de meilleures conditions d'avenir, afin que ce quartier puisse se développer, recevoir des investissements, créer des emplois et être en mesure d'offrir des opportunités à ces personnes.
Témoignage du maire de droite de Suzano, une ville de 300 000 habitants, donc située à l'est de Sao Paulo. Témoignage reconnu par Arte en 2024. Hervé Théry, cette question du logement, est-ce qu'elle cristallise des tensions entre la gauche, notamment le PT, et puis l'opposition de droite dans un contexte de forte polarisation depuis plusieurs années au Brésil? Ou bien au contraire, est-ce que c'est un sujet sur lequel il peut y avoir des consensus?
Si on prend au pied de la lettre ce qu'a dit ce maire de droite, effectivement, ça paraît consensuel. Je suis pas sûr que ce soit entièrement la pratique là-dessus. Je pense pas que ce soit un des sujets les plus controversés. Il y en a d'autres. Le Brésil a très longtemps été un pays très, très consensuel et depuis 2013, au contraire, il s'est beaucoup polarisé. Donc c'est un des sujets. Mais de toute façon, tous les responsables sont soumis à ça. Voilà. On vient d'avoir le recensement, la population, croissant de la population a un peu ralenti. Quand même, il y a 203 millions de Brésiliens, dont énormément de pauvres, donc cette pression continue. Si les gens sont relativement de bonne volonté et qu'il n'y a pas trop de corruption, on peut effectivement arriver à des consensus. Mais je ne pense pas que ce soit une des questions politiques centrales. Dans la vie quotidienne des gens, oui, effectivement. Comment est-ce que je peux trouver un emploi ou au moins des petits boulots pas trop loin de chez moi? Combien me coûte le transport? Ça, c'est la préoccupation quotidienne d'énormément de Brésiliens et de Brésiliennes. Mais dans le sujet, ce n'est pas un des sujets principaux de tension dans le domaine politique.
Eloïsa Diaz-Gonçalves, sur cette question de la place du logement et en particulier du logement social dans les débats politiques.
Oui, en fait, ouais, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de controverses sur les programmes. Il y a un autre programme lancé par Lula, celui-ci. Oui, il y a plus de débats politiques qui s'appelle Bolsa Família. C'est une aide aux familles qui dépend de combien d'enfants vous avez et si l'enfant va à l'école ou non, s'il prend les vaccins et tout ça. Et ces programmes-là qui donnent une somme d'argent directe aux familles, celui-là, il fait débat. Mais Minha Casa, Minha Vida, il fait pas trop de débats. Je pense surtout parce que Le secteur privé, il a bien profité en fait de ces programmes. Donc, on a vu que les emplois sont créés, que ça a fonctionné en termes économiques. Le Brésil n'a pas senti autant que d'autres pays la crise de 2008. Donc, c'est un peu les contradictions du programme qui fait que il est un peu en consensus, même si après l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir, il a arrêté tout de suite les programmes. Je pense que parce que c'était un peu la marque du gouvernement du PT.
Oui, bah justement, c'est la question que j'allais vous poser. Quand Dilma Rousseff quitte le pouvoir ou même évincé du pouvoir en 2016, que devient ce grand programme Minha Casa, Minha Vida? Est-ce que c'est un coup d'arrêt brutal? Est-ce que c'est un arrêt progressif des financements? Et rappeler que ce n'est pas tout de suite Bolsonaro qui arrive au pouvoir. Il y a aussi la parenthèse Michel Temer au pouvoir à ce moment-là. Comment ça se joue? Comment ce programme, qui était quand même lancé sur plusieurs années, avec des chantiers qui forcément s'étalent dans le temps, comment ça se passe concrètement sur le terrain, Eloisa Diaz-Gonçalves?
En fait, à l'arrivée de Temer au pouvoir, après les coups d'État, il fait que tout de suite, il adapte beaucoup de mesures pour contrôler les dépenses publiques. Et presque tous les programmes sociaux sont affectés. On va avoir des amendements constitutionnels pour contrôler les dépenses publiques, et évidemment ça atteint aussi les programmes Minha Casa Minha Vida. Et je pense à ces moments-là, c'est plutôt une question du discours de contrôler les dépenses, qu'on avait une crise en 2015 qui commençait, et il arrête ces programmes-là. Et Bolsonaro, après, aussi, c'est pas sa priorité, en fait, les programmes sociaux. Il va lancer un qui s'appelle Casa Verde Amarela, la maison jaune verte. Jaune verte, qui sont les couleurs du Brésil, en fait. En fait, ces programmes-là, il a presque rien financé des maisons. C'était pas une priorité de son gouvernement.
Les maisons vertes et jaunes qui viennent en tout cas dans le discours remplacer le programme Minha Casa Minha Vida, Hervé Théry, sur ce changement de majorité en 2016 et sur l'impact sur le logement social.
Oui, c'est ce qui vient d'être dit. Il a beaucoup beaucoup réduit, mais quand même il a senti le besoin de créer un programme. Il aurait pu dire c'est une bêtise, j'arrête, etc. Donc il l'a créé en le repeignant aux couleurs nationales, littéralement. Mais il y a eu d'autres domaines où ça a été bien pire. Par exemple, les crédits pour la lutte, la lutte contre les violences faites aux femmes, il a réduit les crédits de 95%. Dans la recherche, c'était 40%. Donc, en fait, il y a eu vraiment des coupures absolument sauvages. Mais dans ce domaine-là, au moins en façade, il a maintenu quelque chose. Parce que c'était devenu, la population était trop attachée. Mais Lula a relancé et a remis le nom ancien. Et le mois dernier, ils ont annoncé 187 nouvelles 1000 maisons. Donc ça repart maintenant.
Oui, alors effectivement, depuis un an, Lula de retour au pouvoir. La grande question sur notre sujet, le sujet qui nous intéresse, les programmes de logements sociaux, c'est est-ce que ce nouveau mandat, qu'est-ce qu'il augure en termes de politique de logement? Est-ce qu'on va reprendre Minha Casa, Minha Vida tel quel? Est-ce qu'on va l'améliorer au vu de toutes les limites et les critiques que vous avez expliquées? Eloisa Diaz-Gonçalves, quelles sont les premières mesures qui ont été annoncé depuis un an concernant le logement social?
Oui, on va le reprendre. En fait, dès la campagne électorale, Lula, il disait qu'il avait promis reprendre le programme, construire de nouvelles maisons. Et les modèles, ils restent en général les mêmes, mais il y a eu quelques changements de réglementation qui visent répondre un peu aux critiques qu'on faisait. Et la principale différence, c'est que maintenant, on continue à avoir ce système d'acquisition à la propriété avec la construction de lotissements, avec beaucoup de logements, mais on a aussi une partie des ressources du programme qui sont destinées à d'autres d'autres actions comme la régulation foncière, les rénovations de logements. On a une priorité aussi à améliorer les immeubles qui sont au centre-ville. Donc, il y a, même si on garde la structure générale du programme, il y a quelques changements pour essayer de répondre aux critiques qu'on faisait.
Hervé Théry, ça veut dire que ce programme, malgré toutes les critiques qui lui ont été faites, il conserve une image populaire au Brésil ?
Oui, en général, et puis surtout pour Lula et son gouvernement. C'est pour moi des icônes de son gouvernement, donc il n'était pas question de l'abandonner. Ça, et la Bolsa Família, auquel il a été fait référence. La réforme agraire, en tout cas la distribution de terres, ça fait vraiment partie de l'ossature du Parti des travailleurs qui est au pouvoir. Donc je crois qu'il n'avait pas du tout ni l'intention ni la possibilité de l'abandonner. C'est une des caractéristiques de ce qui se passe depuis un an. On reprend exactement au point où on s'était arrêté en 2014, et donc je ne crois pas que ça va changer beaucoup. Des aménagements, oui, et de bon sens, comme ceux qui viennent d'être décrits, mais je ne me vois vraiment pas changer ça.
Et sur la question des paysages urbains que vous évoquiez tout à l'heure, qu'on n'a pas développé, de la façon dont ces nouveaux lotissements ont parfois bouleversé toute l'architecture et tout le paysage d'une ville et de son environnement, est-ce que là, c'est des choses sur lesquelles on a une marge de manœuvre pour corriger ou pour refaire les choses autrement? Ou est-ce qu'une fois qu'un grand programme comme ça est lancé, c'est difficile de corriger, entre guillemets, ce qui a été fait sur l'urbanisme?
De toute façon, il y a 6 millions de maisons qui sont déjà là, avec très très peu d'espace autour d'elles, donc on ne peut pas changer. J'ai pas vu les toutes dernières réformes, peut-être que c'est un petit peu plus modulaire, un petit peu plus changé, mais dans la mesure où ça doit tenir dans une enveloppe assez étroite, je ne crois pas que ça puisse beaucoup changer l'allure du paysage. Et donc on a vraiment maintenant ça fixé à la périphérie des villes brésiliennes pour un bon bout de temps.
Et Luis Dias Gonçalves?
Oui, je suis d'accord. Je pense que même s'il y a quelques efforts pour éviter qu'on continue à reproduire ces modèles urbains, la réalité, c'est que quand on laisse aux promoteurs privés de choisir où on va installer le lotissement, où on va construire, c'est un peu la règle. Surtout parce que le coût de foncier, c'est toujours le principal coût pour la construction. Et évidemment, où il y a une zone bien desservie d'infrastructures et tout ça, les coûts sont beaucoup plus élevés. Il y a quelques mesures prévues qui essayent de soutenir ceux qui veulent construire dans des zones plus urbanisées déjà, en fait. Mais je sais pas si ça suffit, en fait. Et je pense qu'il va falloir suivre comment les programmes vont être gérés, mis en œuvre, pour savoir si les résultats seraient les mêmes ou non. Et surtout parce que je pense la standardisation, elle atteint beaucoup aux demandes du secteur privé. Donc évidemment, c'est beaucoup plus simple de construire 300 petites maisons toutes égales et faire une rénovation d'un bâtiment qu'il peut avoir des problèmes qu'on voyait pas, que ça augmente le coût et tout. Donc, je sais pas s'il y aura même l'intérêt, par exemple, d'adhérer à ces nouveaux modèles que le programme, la nouvelle version du programme propose. Ça va dépendre beaucoup de l'articulation aussi politique des villes et tout.
Au Brésil, un logement social pour tous, point d'interrogation. Dernier volet de notre série consacrée aux crises du logement. Dans Culture Monde, nous parlions donc du Brésil et dans un instant, juste après le disque, direction le Venezuela.
Andei sem rumo por aí pra trazer luz pra casa e tatuei momentos bons. Lápis é pra quem sente medo de errar palavras. Uso caneta em canções. Enchi o pulmão, enchi meu coração de paz. Vivenciei tudo sendo novo demais. Já odiei, mas hoje eu não consigo mais. Eu joguei fora tudo que ficou pra trás. Canoa uso pra desbravar o mar. Correnteza vem, mas não invade.
casa, me escondendo da escuridão. Cicatrizei as dores tatuadas na minha alma, fiz do meu trauma uma lição. Já odiei, mas hoje eu não consigo mais. Eu joguei fora tudo que ficou pra trás. Já odiei, mas hoje eu não consigo mais. Eu joguei fora tudo que ficou pra trás. Carro a uso pra desbravar o mar. Correnteza vem mais me invadir meu lar.
J'ai marché sans but pour amener la lumière à la maison et j'ai tatoué les bons moments. Les crayons sont destinés à ceux qui ont peur de se tromper. J'utilise un stylo dans les chansons, chante le musicien et compositeur brésilien Rafael da Cruz Gonçalves, plus connu sous le nom de Kamaitachi, né à Rio de Janeiro. Et dans un instant, eh bien, direction le Venezuela.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Le défi que je veux relever, et je vous invite tous à me rejoindre pour y parvenir, ce serait de construire 2 millions de logements au Venezuela au cours des 7 prochaines années. Nous allons le faire, bien sûr que nous allons le faire. Mais pour ça, il nous faudra mobiliser toutes nos forces, car au-delà du nombre d'appartements à construire, nous voulons aussi proposer une architecture de qualité pour garantir non seulement des logements différents, mais aussi des vies meilleures. C'est pour atteindre tous ces objectifs que nous lançons aujourd'hui la Grande Mission Vivienda Venezuela.
L'ancien président du Venezuela, Hugo Chavez, qui annonçait en 2011 le lancement de la Grande Mission Vivienda Venezuela, un projet pharaonique de construction de logements, 2 millions en 7 ans, 5 millions d'ici 2025. Un objectif presque démesuré rapporté à la démographie et aux besoins réels de la population. Et ce qui frappe encore plus dans ce programme, c'est sa dimension politique, puisqu'il s'agissait de faire du logement un des piliers du socialisme du 21e siècle. Bonjour Yanera Wilson.
Bonjour.
Et bienvenue dans Culture Monde. Vous êtes architecte urbaniste, chargée de recherche à l'École nationale d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Vous êtes l'autrice de l'article « Faire du logement social un bien commun, point d'interrogation, regard vénézuélien ». C'était paru dans la revue Métropolitique en 2021. On sait que c'est difficile d'avoir des statistiques et des chiffres exacts sur ce qui se passe au Venezuela. Est-ce qu'on peut tout de même essayer de dessiner une estimation la réalisation de ce grand programme lancé en 2011 par Hugo Chavez sur les 5 millions promis à l'horizon 2025? Est-ce qu'on a une idée du nombre d'appartements et de maisons qui sont sortis de terre?
Bon, c'est difficile. Merci déjà pour l'invitation. C'est difficile d'avoir une estimation réelle sur toutes les statistiques aujourd'hui au Venezuela. Mais pour vous donner un cadre ou un panorama de la population et le nombre de logements qui existaient dans les pays quand les programmes ont été lancés, c'est un pays à peu près de 30 millions de personnes avec un parc immobilier estimé à l'époque de 8,2 millions de logements. Qui concernait le public et les privés. Et donc, ces programmes qui viennent s'installer, c'est une construction des, comme vous l'avez très bien dit, 5 millions de logements et d'ici à 2025. Donc, plutôt une estimation qui est surestimée aujourd'hui.
Alors justement, comment on explique ces chiffres qui apparaissent disproportionnés par rapport aux besoins, qui plus est dans un contexte où ces dernières années, il y a eu un phénomène d'émigration des Vénézuéliens qui quittaient leur pays. Alors en 2011, c'était pas du tout le cas. Néanmoins, encore une fois, c'était très ambitieux. Comment est-ce qu'on explique cette dimension hors norme de ce projet?
Oui, probablement il y a évidemment une partie qui tient à un discours politique. Et de construire ou proposer une construction massive des logements à l'époque qui répond à un besoin. Le pays a souffert de fortes crises climatiques, donc de fortes pluies. On a connu la situation de la tragédie de Vargas en 1999. C'était au moment où Chavez arrive au pouvoir. Donc il avait une excuse parfaite pour proposer cette politique de construction massive des logements. Mais le nombre de logements proposés ne correspond pas à la réalité, ce qu'on a pu mesurer exploré dans ma recherche et des autres recherches d'ailleurs aussi, où et si on fait ces calculs des 7 millions, aujourd'hui 7,7 millions de personnes qui ont quitté les pays, qui ont émigré pour des raisons diverses, et si on fait les calculs de cette production de logements en estimant 4 personnes par logement, et on serait dans une surproduction des presque plus de 20% aujourd'hui.
Alors l'objectif à l'époque, c'est de, comme au Brésil, de sortir les gens du mal logement et notamment des bidonvilles qui sont importants aussi au Venezuela. Mais il y a quelque chose en plus au Venezuela puisqu'il s'agit aussi de construire un modèle d'habitat particulier, un habitat communautaire. En quoi le logement devient un moyen de construire cette fameuse utopie socialiste selon Hugo Chavez?
Il a proposé à l'époque que les gens devaient être sur un modèle socialiste, avec les groupements des personnes qui formeraient ou faisaient les communes, et dans la construction il proposait toujours cette participation des habitants, mais dans la réalité la construction réelle venait toujours des entreprises ou des accords internationaux qui venaient à produire directement les logements. Donc il y a des écarts entre cette invitation en participation populaire et à la réalité du terrain.
Il y a un autre dispositif, c'est aussi le modèle de propriété qui est proposé par l'État vénézuélien. Donc on n'est pas du tout dans un modèle locatif là non plus, mais donc un modèle de propriété, mais pas tout à fait de propriété privée, un modèle hybride, expliquez-vous dans votre article. De quoi s'agit-il exactement? Très concrètement, est-ce que les gens qui arrivent dans ces logements sont propriétaires ou pas?
Bon, et non, ils ne sont pas propriétaires. L'État, il a proposé également un modèle de propriété commune et qui engageait plutôt les terres où les bâtiments allaient être construits. Après, c'est vrai qu'il a un peu de différence entre le modèle brésilien qu'on a vu tout à l'heure. Ici, il avait des propositions de construction dans des parcelles vides au centre-ville. Donc ça, c'était un modèle. Et on avait un modèle qui ressemble aux villes nouvelles, comme on l'a eu ici en France, avec des constructions des villes, cette ville socialiste qui était très éloignée du centre-ville et de lieux de travail et où il y avait des difficultés de transport, comme on a vu dans les cas brésiliens. Et donc, la proposition d'une propriété commune engageait plutôt la parcelle où les bâtiments allaient se construire, mais le bâti restait toujours propriété de l'État. Et donc, il a beaucoup de difficultés à, au bout d'un moment, mettre en place un titre de propriété individuelle, parce que la configuration n'était pas proposée de cette manière-là.
Et ce modèle de propriété hybride, hein, vous dites semi-privée, commune, est-ce qu'il est bien compris? Est-ce qu'il est bien accepté par les habitants? Quand vous avez fait votre terrain pour votre thèse, que disent les gens qui habitent? Est-ce qu'ils se sentent propriétaires? Est-ce qu'ils se vivent comme des propriétaires?
Oui, il y a certains qui sont que l'État avait une dette vis-à-vis des habitants, d'eux-mêmes. Et Chavez, il a proposé ces maisons comme un droit. Et l'État donnait cette opportunité aux gens d'avoir une maison. Donc, dans les enquêtes que je peux faire, il y a eu énormément de personnes qui disaient « oui, c'est ma maison ». Il y avait des autres qui parlaient plutôt « ce sont les maisons de Chavez ». Donc, ça ne les appartient pas, ce sont les maisons de Chavez. Et au niveau des titres de propriété, il n'avait pas un titre de propriété, mais des adjudications, donc un document qui le permettait de pouvoir, comme un usufruit, de l'espace habitable. Et, mais il n'a pas un contrat, comme on peut l'avoir, classique, des logements individuels.
Vous dites, les gens disent que ce sont les maisons de Chavez. Et, sur la façade des immeubles, sur la façade des maisons, il n'est pas rare de voir un pochoir qui représente les yeux de Chavez et parfois même sa signature qui est peinte en grand. Pourquoi ?
Oui, bah, ça fait partie aussi de ce que je peux théoriser du marketing politique territorial, c'est-à-dire que c'est un fort investissement de l'État dans la construction de ces programmes massifs de logement, et avec une communication institutionnelle, avec ses yeux de Chavez, sa signature, et même des messages de Chavez qui sont à l'intérieur de logements ou dans les parties communes, et dans les s'entretient également, je pose les questions, est-ce que vous pouvez effacer les yeux, est-ce que, et ça c'est, donc non, évidemment, il y a une interdiction d'échanger ces images, ces messages qui sont là, et donc évidemment, il y a tout un nouveau paysage, aujourd'hui on le voit, et également, à différence du contexte de Brésil, où il y a les lotissements qui sont à l'extérieur des villes. Ici, on a ces bâtiments qui sont au centre-ville. Donc, il y a tout un nouveau paysage qui a été développé avec ces programmes de la Grande Mission Vivienda Venezuela, avec et tous ces yeux qui sont et, un peu partout. Et donc, l'interprétation, c'est que et c'est une manière de regarder. Les gens disaient, par exemple, ça me dérange sentir qu'ils me regardent partout. Et après, évidemment, il y a une idolâtrie très fort vis-à-vis de Chavez et même après sa mort, on va parler de Chavez, les héros éternels. Et donc, les maisons, la manière dont ces espaces vont être occupés et vécus ont cette influence aussi de cette présence forte de lui dans ces espaces.
Est-ce qu'on voit aussi la moustache de Maduro ou les yeux de Maduro apparaître, ou c'est vraiment très lié à Hugo Chavez?
Oui, il a eu des expériences qui n'ont pas eu de succès avec l'image de Maduro dans un des immeubles, et où après il avait des signes qui ont montré que c'était, qui montrait un désaccord d'avoir l'image de Maduro, et c'est vraiment plutôt l'image de Chavez qui est encore aujourd'hui parallèle dans cette construction.
Merci, merci beaucoup Yanera Wilson pour vos éclairages sur le Venezuela, et merci à nos invités de la première partie, Hervé Théry et Eloïsa Diaz-Gonçalves, avec qui nous parlions du Brésil. Les références de vos articles et ouvrages sur le site de France Culture, Culture Monde. Et tout de suite, c'est la revue de presse.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et on reste en Amérique du Sud, Catherine, avec à la une ce matin la Colombie qui mesure l'ampleur des dégâts causés par les incendies de forêt. 460 feux ont été éteints le mois dernier.
28 000 hectares de végétation sont partis en fumée, indique le journal colombien El Espectador. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 2,5 fois la superficie de Paris. Ravage sur l'environnement, alors que la Colombie est réputée pour sa biodiversité, dégradation aussi de la qualité de l'air pour des millions d'habitants et des problèmes respiratoires en série à Bogota, note El Espectador. Le journal colombien nous donne à voir également le maire de la capitale, Bogota donc, se féliciter hier d'en avoir fini avec tous les incendies, mais quelques heures après, un nouveau départ de feu a été signalé sur la colline El Cable, à la périphérie est de Bogota. En clair, pas de répit à cause du phénomène El Niño, record de chaleur, sécheresse prolongée liée aussi au dérèglement climatique, température record pour un été, avec le mercure qui est grimpé de 30 à 40 degrés dans 17 villes colombiennes le mois dernier. Les incendies se multiplient aussi à cause d'espèces végétales invasives importées en Colombie pour lutter contre la déforestation, des pins par exemple, des cyprès ou encore des eucalyptus.
En los incendios actuales estarían incidiendo especies traídas de otros países, como pastos de África, árboles de Australia y flores de Italia.
Des herbes d'Afrique, des arbres d'Australie et des espèces venues d'Italie sont impliquées dans les incendies actuels, ce qui complique leur gestion et leur maîtrise, explique dans cette vidéo un journaliste d'El Espectador. Les eucalyptus, par exemple, sont très inflammables à cause de leurs feuilles, riches en huile, et de leur écorce qui se détache facilement et crée une couche de combustible sur le sol. C'est ce que l'on a pu voir, notamment dans les incendies dans les collines de l'est de Bogota. El Espectador estime qu'il faut, à moyen et long terme, sur 10-20 ans, remplacer les espèces végétales invasives par des espèces indigènes.
Et en attendant, Catherine, les autorités craignent le pire en ce mois de février.
90% de la Colombie exposée à un risque maximal d'incendie. C'est pour cela que l'état de catastrophe naturelle et l'état d'urgence nationale ont été décrétés, explique El Universal, alors que 3 feux seulement, pourrait-on dire, sont actuellement actifs dans le pays. Le pire est effectivement à venir en ce mois de février, prévient le président Gustavo Petro, en particulier en Amazonie, souligne El Espectador, avec des incendies qui pourraient se propager dans la jungle d'une manière jamais vue en Colombie. Alimentée par la déforestation, explique une géographe au journal colombien. Elle se souvient du mois de février 2007, qui avait également connu une saison sèche, accompagnée du phénomène El Niño. 2,5 millions d'hectares avaient alors brûlé. Le président Petro a demandé une aide internationale pour lutter sur le front des incendies. Le Pérou a notamment envoyé 200 réservoirs et conteneurs d'eau, rapporte El Tiempo. Et puis, les incendies de forêt mettent en lumière l'indigence, la précarité dans laquelle travaillent les pompiers colombiens, souligne El País. Dans le pays où le service national d'incendie a vu son budget baisser l'an dernier, il y a à peine 20 000 pompiers, souligne la radio colombienne Caracol Radio. 20 000 pompiers pour 51 millions d'habitants. Pas étonnant, poursuit El País, qu'ils travaillent 24 heures sur 24. Ce sont des super-héros sans cap qui risquent chaque jour leur vie parmi les flammes, salue El Espectador. Alors que le phénomène climatique El Niño pourrait durer jusqu'en mai, selon le quotidien El Universal. 710 milliards de pesos ont été débloqués pour faire face aux urgences en Colombie, soit un peu plus de 167 millions d'euros.
Et pour finir, Catherine, vous nous emmenez en Espagne, où l'affiche officielle retenue pour les festivités de la Semaine Sainte à Séville suscite la colère des milieux ultra-conservateurs.
Cette peinture a été commandée par le Conseil Général des Confréries de Séville à l'artiste local Salustiano García. Sur un fond rouge vif qui lui est typique, note El Diario de Sevilla et El Confidencial, le peintre a représenté un Christ ressuscité, jeune, beau et presque nu, désignant de sa main gauche de petites plaies sur ses côtes. Salustiano García dit se référer au Christ italien ou espagnol de la Renaissance ou du Baroque. Il a également pris son fils de 27 ans comme modèle. Mais pour la fondation chrétienne Abogados Cristianos, il faut faire retirer au plus vite cette affiche, car elle ne représente pas la foi, les valeurs chrétiennes, la tradition et la ferveur religieuse de la ville, indique El Diario de Sevilla. Une pétition a été lancée par cette fondation sur change.org. Elle a recueilli près de 14 000 signatures ce matin. De son côté, un chroniqueur du journal conservateur ABC dit ne pas être offensé par l'affiche en question. Il n'y voit pas d'irrévérence, mais elle ne lui plaît pas non plus, car pour lui, c'est un exercice de vanité et non du sacré. Alors qu'El País verse de son côté dans l'analyse historique et rappelle que la beauté physique des saints et du Christ est également une preuve de foi qui attire le croyant, au micro de la radio Cadena Ser, la plus écoutée en Espagne, l'écrivain Manuel Rabois dit trouver cette controverse fascinante. Elle met en scène, dit-il, des homophobes espagnols qui débattent de la beauté d'un homme. Est-ce trop ou pas assez? Est-ce approprié ou non? L'écrivain ironise encore sur la réaction de ces homophobes devant la beauté masculine. Rien de plus drôle que cette insécurité, comme si quelque chose, dit-il, allait leur arriver. Mais la beauté transcende la question des sexualités.
Merci beaucoup Catherine Dutu. On vous retrouve demain à 7h30 pour la revue de presse dans la matinale de Guillaume Herner. Et demain, ce sera l'émission Actualité du vendredi dans Culture Monde, avec un retour de Hongrie avec Nelly Didelot du journal Libération. Et puis notre table ronde sur l'Europe face à la guerre en Ukraine, une discussion avec Thomas Gomard et Pierre Buller. Et dans un instant, les midis de Culture.